Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, c'est le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets, tous ces sujets essentiels de nos vies et qui peuplent notre quotidien et notre politique et notre économie. Je suis Patrick Béja et c'est l'épisode numéro 125, nous sommes en janvier, fin janvier 2014. Et pour 2014, puisque nous sommes encore en janvier, je peux encore dire bonne année à tous les auditeurs qui ne l'auraient pas encore entendu d'une part, et aussi aux invités qui nous font l'honneur d'être là, puisqu'il s'agit de Guillaume, super expert mondial de la statistique. N'est-ce pas?
Au moins, Guillaume. Oui. Au minimum. Bonne année à tous. Hein. Ça marche encore, on est le 27.
Voilà, exactement. On est juste à la limite.
Tu es prêt pour 2 heures d'émission?
Oh!
Comme les fois précédentes?
On va voir comment on s'en sort. Et puis, ça risque de prendre un tout petit peu de temps parce que, effectivement, on a un autre revenant, mais alors vraiment revenant pour le coup, qui n'était pas dans l'émission depuis un an. C'est Lionel de Feu Techno IT, le podcast qui parlait de l'IT et de la technologie d'un point de vue un petit peu professionnel. Comment vas-tu, Lionel? Ça fait longtemps.
C'est vrai, ça fait longtemps.
Bonne année!
Bonne année, 2013 et 2014.
Voilà, on fait les deux d'un coup. Exactement. Bon, tu vas bien depuis si longtemps? Qu'est-ce que tu deviens? Tu as disparu.
Alors, j'ai disparu, mais pas vraiment. Je travaille toujours dans l'informatique.
Donc d'accord, c'est bien. Donc, tu es toujours un expert. C'est pas mal.
Oui, on peut dire ça comme ça. Et ma foi, c'est vrai que j'avais changé de société. C'était le moment de transition un petit peu compliqué. Ouais. Donc, j'étais fort pris.
D'accord, mais en fait, c'est
maintenant,
ce qu'on disait déjà.
Tu vois.
D'accord, c'est ça. T'as mis ta première année dans la boîte. Oui, c'est ce qu'on disait déjà l'année dernière. Donc,
bon. Oui, tout à fait.
En tout cas, je suis heureux de vous avoir tous les deux pour discuter de ces sujets éminemment importants dont on va discuter aujourd'hui, puisqu'on va avoir de la NSA et de la neutralité du net. Et on va aussi parler des lentilles de contact connectées de Google et d'autres petites choses. On a une série de news et rumeurs qui sont du n'importe quoi total, qui risquent de plaire aussi aux auditeurs. Mais on va commencer avec le gros morceau qu'on avait évoqué la dernière fois avec Cédric et Yann, qui était la réforme de la NSA. Alors certains s'attendaient à ce que les réformes soient des réformes d'un petit peu de papier, c'est-à-dire qu'elles ne vaillent pas grand-chose dans la pratique, et certains, d'autres, disent que les réformes qui ont été annoncées sont relativement substantielles. Alors dans quel cas, dans quel camp allons-nous tomber ? On va commencer peut-être en vous expliquant la nature de ces réformes pour que vous puissiez aussi vous faire votre point de vue, vous faire votre avis vous-même. Les sujets concernent essentiellement la question des écoutes téléphoniques. Alors, les changements, c'est que d'une part, on a le plus gros changement, je dirais, c'est records. On commence bien l'émission avec un mot anglais que j'arrive pas à traduire. Ces archives, voilà, de métadonnées sur les appels téléphoniques, donc les numéros de téléphone qui ont été appelés, à quel moment, etc. Ces données qui ne sont pas les appels en eux-mêmes seront conservées chez un contracteur, enfin dans une base de données indépendante. Il faut évidemment se rappeler que c'est le président Obama qui a fait ces annonces. Par contre, il n'a pas annoncé chez qui ces bases de données seraient conservées. Donc, on ne sait pas si les sociétés de téléphonie mobile ou de téléphonie tout court conserveraient ces données et les espions devraient demander l'accès pour pouvoir y avoir accès. Et on ne sait pas si ça serait un acteur complètement indépendant, une société privée par exemple, ou une organisation qui stockerait ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que une fois cette chose mise en place, les archives ne seront plus directement gérées par la NSA. ce qui est plutôt pas mal. Autre réforme, ils ne pourront plus demander ou conserver les données qu'avec deux sceaux. Alors, qu'est-ce que c'est que les sceaux ? C'était une personne qui appelle une autre personne qui appelle une autre personne. Jusqu'à maintenant, ils pouvaient sauter trois fois. S'ils pensaient qu'il y avait une activité terroriste, ils pouvaient aller jusqu'à trois personnes plus loin de la personne qu'ils suspectaient. Aujourd'hui, on se limite à deux. Encore une chose, les gag orders, ces ordres, ces instructions de silence qui empêchaient les gens qui avaient reçu des mandats, des perquisitions ou ce genre de choses, d'en parler, et en particulier les sociétés, les grandes sociétés de l'informatique, ces gag orders vont être beaucoup moins strictes. Etc., etc. Il va y avoir des règles qui seront les mêmes pour les Américains et pour les non-Américains. Donc ça, c'est intéressant aussi. Certains diront qu'ils espionnaient déjà les Américains, donc on se demande quel effet ça va avoir sur les non-Américains. Mais bon, parce que vous savez que jusqu'à maintenant, les non-Américains n'avaient pas du tout le droit de ne pas être espionnés. Toutes les discussions aux États-Unis ne parlaient que du droit d'espionner ou non les Américains eux-mêmes. La fin de l'espionnage sur les leaders étrangers, ça c'était un petit peu inévitable. Et enfin, une voix des défenseurs du public, de l'intérêt public, au tribunal FISA, le fameux tribunal qui décide si oui ou non ils ont les autorités gouvernementales, les organisations d'espionnage ont le droit d'écouter ou non certains, d'espionner ou non certaines personnes. Le bémol là, qui est quand même important, c'est que c'est uniquement dans le cas des technologies nouvelles, dans un cas d'application de technologies nouvelles, c'est-à-dire que ce qui a déjà été décidé ne verra pas l'argumentation d'un défenseur de l'intérêt du public. Les auditeurs se souviendront que dans l'épisode dernier, je disais que c'était un élément très important d'avoir cet équilibre, d'avoir quelqu'un au tribunal qui argumente pour l'intérêt du public. Donc ça a été implémenté, mais pour certains cas précis uniquement. Je vais faire une petite pause et je me retourne vers mes deux compatriotes. Est-ce que c'est des changements substantiels ? Est-ce que c'est des choses qui vous satisfont ? Ou est-ce que c'est un petit peu un pétard mouillé, ces réformes, pour vous ?
Alors, je me permets de commencer, mais...
Vas-y Guillaume, lâche-toi.
Globalement, moi, ça me donne une impression d'hypocrisie, dans la mesure où, s'il ne s'était rien passé... Si Edward Snowden n'avait pas révélé tout ce qu'il a révélé, on ne serait pas en train de parler de tout ça. Donc, il y a une espèce de volonté de faire amende honorable que je trouve un peu, qui me donne une impression d'hypocrisie globalement, quoi. J'ai l'impression que les décisions qui sont prises, elles sont prises pour calmer, pour qu'on arrête, pour que ça fasse couler moins d'encre, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait une vraie volonté de dire « Ok, on est allé trop loin. »
Une vraie volonté de réforme, quoi.
Voilà, « Ok, on est allé trop loin, et il faut que, sur le plan humain, on réfléchisse à ce qu'on faisait, et il faut qu'on parte dans des directions différentes. » J'ai pas l'impression que c'est ça. J'ai l'impression juste qu'on veut juste calmer. Voilà. Et donc, ce qui a été annoncé concrètement me paraît, dans l'absolu, me paraît bon, puisque ça serait de... lâcher un peu la bride et
un cadre un petit peu plus cadré, je dirais.
Voilà, ouais. que les pratiques soient moins il y avait une dimension même cynique au départ, c'est-à-dire qu'on faisait tout, il faisait tout au maximum, de toute façon, il savait que personne ne savait rien justement et
ouais.
Là la situation
donc il tirait sur la corde et ouais.
Bon, moi, voilà, c'est une sensation d'hypocrisie globale, voilà.
C'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est une réflexion qui m'est venue aussi par rapport à Edward Snowden et cette question de l'hypocrisie, c'est que le fait, enfin, les attaques dont a été à l'encontre d'Edward Snowden ont été très violentes et les accusations à l'encontre de Snowden ont été très violentes en disant que effectivement il y avait une attitude de traîtrise, qu'il avait fait quelque chose de dangereux, etc., etc. Et malgré tout, ils en arrivent à faire certains changements. Donc, il y a un petit peu deux considérations différentes. Bon, je comprends que certains ont dit, si Snowden avait des doutes, il aurait dû essayer de passer par les canaux hiérarchiques traditionnels. Ça, personne ne le prend au sérieux, donc c'est pas vraiment ça le problème. Snowden est dans certains cercles considéré comme un traître. Et pourtant, ils vont faire des changements importants à leur politique suite à ce qu'il a révélé. Donc il y a vraiment une appréciation étrange là.
C'est une sorte de schizophrénie. Hein. C'est bizarre. Hein. Ce qu'il a fait, c'est mal, mais on va quand même
changer les choses dont il a parlé. Ouais. Mmh. Lionel, toi, ça t'inspire quoi ces changements?
Alors, pour compléter ce que vous disiez, c'est ce qu'on appelle un peu marcher sur les œufs, en fait.
Ouais.
Et le gouvernement américain, bien entendu, et la présidence américaine, a intérêt à marcher sur les œufs. En effet, pour calmer un peu tout le monde, certainement, moi, ce que je trouve intéressant dans ce que dit Guillaume, c'est qu'en effet, il n'y a pas de réflexion de fond sur
la nature de cette surveillance.
Sur la nature de la surveillance. Moi, ce qui me satisfait pas du tout dans cette histoire, c'est l'existence même de la base de données. Donc, je ne considère que la présence, l'existence et l'exploitation de cette fameuse base de données, qui pour l'instant est entre les mains de la NSA, pour moi, elle ne devrait même pas exister. Mmh. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir accès à des écoutes téléphoniques, qu'il ne faut pas avoir accès à ce genre d'informations, mais il faut y avoir accès d'une façon non agrégée, en fait.
Là,
pour le moment, toutes les données de Verizon et compagnie sont agrégés directement et sont exploités sans contrôle. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quand tu disais, Patrick, que la base de données, justement, va être externalisée. Alors, si j'ai bien compris les articles que j'ai pu lire et que tu nous as mis gentiment à notre disposition.
Vos devoirs de programme.
C'est que Obama a demandé à ce qu'on réfléchisse à une façon d'externaliser cette base de données. Donc, c'est pas forcément encore vraiment acté, puisqu'il va falloir trouver le moyen pour pouvoir externaliser cette base de données et faire en sorte qu'elle soit contrôlée, malgré tout, évidemment, et sécurisée.
Donc, oui, t'as tout à fait raison. Ouais. Il a vraiment expliqué les choses, enfin, il a vraiment énoncé des principes sans en détailler l'implémentation, ce qui est bon. On peut espérer, en tout cas, que je crois qu'il s'était donné une limite du mois de mars ou début avril. On peut espérer qu'ils trouveront un moyen de l'implémenter, mais c'est vrai qu'il n'y a rien de précis dans cette directive.
On verra, on va voir. Et en effet, moi, je pense sur le fond, je pense que les Américains et puis tous les alliés des Américains, notamment évidemment la Grande-Bretagne, mais je pense aussi à l'Allemagne, devraient penser et réfléchir à quelles ont été les conséquences du Patriot Act et revenir un petit peu sur la philosophie de base et en effet de freiner et de se dire on est allé certainement trop loin, en tout cas pas dans la bonne direction, et revenir sur des fondamentaux un petit peu plus humains.
Ouais. C'est intéressant, oui, c'est sûr que ce que vous dites tous les deux est très vrai. Il n'y a pas eu de repensage. J'invente des mots. Ils n'ont pas repensé leur l'activité et la philosophie de l'espionnage qui est venue du Patriot Act de totalement. Ils ont vraiment changé des petites conséquences. C'est presque traiter les symptômes sans traiter la cause, on va dire. On peut voir ça comme ça. Je le comprends. La chose, moi, qui m'a véritablement, pour le coup, enfin, c'est sur ce sujet des archives, des données téléphoniques, je pense que, oui, on ne traite que les symptômes, mais il y a quand même des traitements substantiels. Il y a quand même des changements. Le fait, par exemple, d'avoir les archives externalisées, je pense que c'est une bonne chose. Le fait d'adoucir la question du gag order, donc de permettre aux gens de parler un petit peu plus de ce qui se passe, c'est une bonne chose. Mais moi, ce qui m'a véritablement choqué et horriblement choqué, parce que très peu de gens en ont parlé, c'est le fait que on a évoqué la question des archives, des données téléphoniques, mais personne n'a parlé de la surveillance du net. Et personne n'a parlé de Prism, qui est donc cet outil dont se sert la NSA pour espionner l'ensemble des communications sur le net. Vous savez, c'est par là que le scandale est arrivé finalement.
Absolument.
Il y avait des gens qui disaient, les premiers articles prétendaient que ils pouvaient consulter en direct les bases de données de Facebook, de Google, d'Apple, etc. On s'est aperçu par la suite que c'était pas tout à fait ça, mais il y a quand même toute une énorme partie de ce scandale qui est la NSA surveille Internet. Et ça, personne n'en a parlé. Et c'est vraiment quelque chose, pour moi, de choquant. De vraiment choquant. Et c'est ça qui aurait dû être, à mon sens, là où les organismes de presse auraient dû appuyer. C'est là qu'ils auraient dû pointer du doigt. Bah,
personnellement, c'est ce qui me fait penser que ce qu'ils ont fait, ce que la NSA a fait, c'est plus un exercice de communication qu'une vraie démarche.
Alors attention, active. C'est le président, hein, c'est pas la NSA qui l'a fait. C'est...
Ah oui, donc, c'est Obama.
Oui.
Ouais, malgré tout, je pense que c'est plus pour calmer les esprits, encore une fois, que pour réellement. Parce que qui ira vérifier que c'est effectivement le cas? Je veux dire par là que, de toute façon, on est dans un système où personne ne peut vérifier ce que fait réellement la NSA.
C'est marrant ce que tu dis, parce que ça fait aussi référence à une des news qui est sortie il y a une dizaine de jours. C'est que le Congrès, les représentants du Congrès américain qui sont censés surveiller la NSA et comprendre ce que fait la NSA, n'arrivent tellement pas à obtenir de réponse de la NSA qu'ils ont été obligés de demander à Bruce Schneier, qui est un expert en sécurité aux États-Unis, un expert reconnu. Donc, ils ont été obligés de lui demander à lui ce que fait la NSA. Mais lui n'a aucun rapport avec la NSA. Hein. Donc, c'est là, pour le coup, on revient à des situations où on marche un petit peu sur la tête. Et ça me fait pencher plutôt du côté des conspirationnistes qui disent, bon, bah, ils sont gentils avec leur réforme annoncée, mais en réalité, il n'y a pas beaucoup de fond, comme tu le dis très bien, Guillaume, derrière tout ça, quoi. Enfin, c'est invraisemblable que le Congrès doive demander à quelqu'un qui est externe ce que fait la NSA, parce que la NSA lui dit pas.
Il y a une espèce de pouvoir suprême, un truc inaccessible. Oui, je sais, on peut pas vraiment dire de mots. Moi, j'aime bien fonctionner par analogie, et je veux dire qu'en Europe, on trouve très difficilement la moindre analogie de ce à quoi ça pourrait correspondre. La NSA, c'est quelque chose, c'est une entité qui est quand même très particulière. Alors, Prism, on pourrait trouver quand même des analogies, mais sur... parce que on pourrait parler des renseignements, des services secrets.
Des généraux, tu veux dire.
Enfin, voilà. Oui, on pourrait parler de ce genre de choses. C'est encore complètement différent. C'est pas... C'est pas la même chose, on n'a pas d'équivalent. Donc c'est vrai que quand on voit une entité comme la NSA qui a les pleins pouvoirs et qui en plus a le pouvoir de ne rien dire.
Oui, c'est sûr que... Mais à vrai dire, c'est ce que je disais un petit peu sur l'épisode précédent, c'est que ce qui est important, c'est qu'il y ait un équilibre des pouvoirs. Il faut que, par exemple, le Congrès américain puisse savoir ce que fait la NSA pour décider si c'est bien ou pas. C'est ça qui aurait été important. C'est ça qu'on aurait dû avoir. C'est pas ce que peut faire la NSA. Enfin, il y a peut-être des cas, par exemple, où ils auraient besoin de sauter 3-4 fois des personnes qui ont parlé à d'autres personnes pour obtenir les informations dont ils ont besoin. C'est pas ces aspects techniques qui, pour moi, sont importants. Ce qui est important, c'est qu'il y ait quelqu'un qui soit là dans l'organe judiciaire qui prend la décision pour défendre l'intérêt du public. C'est que l'important, c'est que le Congrès ou l'organisation ou le comité qui est censé surveiller la NSA sache ce qu'ils font pour pouvoir décider s'ils ont droit de continuer à le faire ou pas. Et tout ça, effectivement, qui sont des questions de fond, n'ont pas été mises en place ou on n'en a pas parlé du tout. Quoi.
D'autant plus que tout cela fait appel quand même à des technologies extrêmement compliquées. Donc, ça fait, je suis pas certain que les membres du Congrès tous peuvent sont à même de comprendre tous les ressorts techniques qui découlent de la surveillance des communications, que ce soit téléphonique ou sur le net. Donc tout ça est techniquement très complexe, donc ça permet évidemment de jouer sur cette complexité-là. Et puis, par ailleurs, pour répondre à cette espèce de de choses incroyables qui en effet qui interdit au Congrès américain de connaître les us et coutumes de la NSA et d'interroger un spécialiste qui n'est que simple journaliste pour avoir des réponses à leurs questions. On est vraiment dans un livre de Kafka, quoi. mais complètement, on est face à une espèce d'entité informe, sans nom, sans visage, comme disait notre cher François Hollande concernant le monde de la finance. Mais c'est pareil, quoi. On est devant quelque chose de complètement pas maîtrisable, qui s'auto-alimente, on a l'impression qu'il grossit, qui grossit de lui-même, et puis qui s'auto-gère et sans vraiment responsabilité réellement désigné, quoi. Moi, je trouve ça totalement effrayant pour ma part. Oui.
C'est marrant, l'image que tu donnes est celle que beaucoup d'Américains ont du gouvernement quand ils disent le gouvernement, enfin, l'administration, au bout d'un certain temps, n'a de raison d'être que sa propre existence. Et c'est pour ça qu'ils sont tellement réticents envers le gouvernement. Ils ont très très peur de ce genre de choses. Bon, visiblement, ça s'applique souvent quand on parle de socialisme et de social-démocratie aux États-Unis. Et là, en l'occurrence, je pense que certains d'entre eux auraient peut-être mieux, enfin, feraient bien d'appliquer ce genre de principe à la NSA directement. Snowden, d'ailleurs, puisqu'on parlait de lui, a précisé que un sentiment qui, à mon sens, est très sain et très logique et auquel beaucoup de gens adhèrent et qui montre encore une fois à quel point il a été mesuré dans la manière dont il a géré les choses. Il a dit « ce n'est pas l'espionnage en soi qui est mauvais. L'espionnage n'est pas foncièrement mauvais. Parfois, il est nécessaire. Mais ces programmes de la NSA n'ont pas le sens des réalités, en fait. » On a eu aussi un rapport officiel qui a conclu que l'espionnage téléphonique non seulement était illégal, on parle toujours des États-Unis, hein, non seulement était illégal, mais en plus, il n'avait pas réussi à trouver de bénéfices significatifs dans la lutte contre le terrorisme. Donc là encore, un jugement assez sévère de ces programmes de la NSA. Microsoft a commencé à proposer des options de stockage de données en dehors des US. Donc là encore, des effets assez importants sur le monde de l'informatique et l'industrie de l'informatique. À noter que certains précisent que l'important n'est pas l'endroit où sont stockées les données, mais l'endroit où sont localisés les administrateurs de ces données. C'est-à-dire que même si les données sont stockées, par exemple, on va dire en France ou en Europe, si les agences américaines demandent à Microsoft, qui est une société américaine, de leur donner des informations, a priori, ils devraient pouvoir y avoir accès. Mais il n'empêche que c'est un mouvement intéressant. Pour conclure ce sujet sur la NSA et sur les réformes de la NSA, j'aimerais, comme je le fais parfois et comme j'aime bien le faire, prendre un petit peu la position de l'avocat du diable et vous demander ce que vous pensez de cette idée, de ce postulat, qui est que Obama a accès à des informations de la NSA qui lui montrent que les informations dont la NSA a disposé ont permis d'arrêter ou d'empêcher plusieurs attaques terroristes, disons 2-3 ces 10 dernières années, que, comme on le sait, hein, les succès dans ce genre de domaine doivent rester passés sous silence, qu'ils ne peuvent pas en parler et qu'on entend que les problèmes. Et donc Obama, ayant accès à ces données et ayant des preuves ayant constaté que ces programmes sont efficaces et ont permis d'arrêter des attaques terroristes qui auraient pu être graves, peut-être aux États-Unis, peut-être ailleurs en Europe, se dit et est en fait en train de baisser la tête et de subir l'ire du monde et de se dire bah, je sais que ça me rend très impopulaire et que ces programmes sont impopulaires, mais on est dans une situation où on n'a pas le choix et il faut qu'on les continue, même s'ils sont impopulaires, et il faut qu'on les continue en gardant le secret de leur efficacité, ce qui serait une position très difficile. Alors, Je présente l'idée comme ça. C'est une idée parfaitement raisonnable. Hein. Je veux pas que les gens se disent c'est n'importe quoi, c'est de la fabulation. Il est possible que ça soit le cas. Encore une fois, je me fais l'avocat du diable. Moi, j'y crois pas trop. Mais je voulais proposer cette idée à notre panel et entendre ce que vous en pensez. Ça vous adoucit un petit peu ou...
Alors, personnellement, je me suis beaucoup intéressé ces derniers temps à tout ce qui était modèle prédictif. Et il se trouve que ça peut avoir un lien parce que depuis 4 ou 5 ans, on voit aux États-Unis que l'industrie de tout ce qui a rapport à... les probabilités et les modèles prédictifs prennent un essor énorme et on nous parle tout le temps, quand je lis les informations à ce sujet, on nous parle tout le temps de données, métadonnées liées aux réseaux sociaux, etc., qui, une fois recoupées entre elles, une fois analysées dans des logiciels de big data et des trucs comme ça, on parvient à en tirer des tendances qui peuvent permettre d'anticiper des passages à l'acte de certaines personnes, de pouvoir localiser des tendances, de pouvoir géolocaliser certaines tendances de la vie américaine de tous les jours.
Bon, t'es en train d'apporter de l'eau à mon moulin d'avocat diable, du fait.
Moi, je suis partagé, mais malgré tout, je pense que quand on collecte autant de données, c'est évident que si on les analyse correctement, on peut en tirer des choses que personne d'autre ne sait. Donc, sur le plan de la surveillance, sur le plan de la surveillance pure, qui consiste à dire on écoute les gens et puis si on en reconnaît un qui a l'air de faire quelque chose d'inhabituel, on va commencer à le surveiller d'un peu plus près. Ça, j'y crois moyen. En revanche, sur le sujet des données en très grosse quantité, je pense qu'effectivement, plus on a de données, plus on est capable d'anticiper des événements, des tendances, des événements graves prévoir une montée de la criminalité dans un coin du pays plutôt qu'un autre. On peut plus facilement organiser une politique sociale et voilà.
Ouais, du coup, mais oui, effectivement, mais là on parle de quelque chose d'un petit peu différent. On n'est plus dans la prévention du terrorisme. Ça serait une autre application.
Je faisais le lien parce que ça correspond quand même à des données qui ont été collectées dans le cadre de Prism et qui correspondent quand même à des données où aujourd'hui on se demande si c'était bien légitime de les récupérer.
Tout à fait. Ok, et alors Lionel, un mot pour conclure sur ce sujet de la NSA?
Ouais, alors la question est pas évidente, évidemment, parce qu'elle met un peu en porte-à-faux. C'est sûr que quand tu mets dans la balance, je sais pas, des dizaines de vies, voire des centaines, et puis la surveillance des données informatiques.
C'est le principe.
C'est bien sûr que c'est le principe. Et là est toute la complexité de la question. Mais
J'ai réussi à vous perturber un petit peu. C'était le but.
C'était compliqué. Mais cela dit, donc pour quand même répondre, je pense qu'on peut imaginer un système qui préserve ou en tout cas qui met des garde-fous à la collecte des données, à l'exploitation des données, tout en luttant contre le terrorisme. Ce que je reproche très fortement aux Américains, et peut-être pas qu'à eux, parce qu'il faut savoir quand même ce qui se passe en France et dans d'autres pays européens. Il y a quand même eu des révélations autour de l'affaire Snowden qui sont dans notre pays en tout cas très inquiétantes. Et ce que je reproche donc très fortement, c'est de ne pas avoir inventé et mis en place les garde-fous nécessaires. C'est ça le problème.
C'est vrai, on en revient toujours à ce même problème d'équilibre d'information.
Exactement.
Je voudrais ajouter deux petits trucs. D'abord, j'avais vu une étude du Pew Research Center qui montrait que 56% des Américains sont plutôt favorables à ce qu'il y ait une poursuite de Snowden pour
trahison.
Pour trahison. Et alors déjà, ça prouve que les Américains sont plutôt majoritaires à penser qu'il fallait ne rien révéler, ou du moins pas de cette manière-là. En tout cas, voilà. Et du coup, ça semble corroborer le fait qu'ils sont, enfin, de l'hypothèse que tu donnais juste avant, qu'ils seraient plutôt d'accord avec l'idée que Obama ne peut rien révéler, mais qu'il est contraint d'admettre que c'est bien de pouvoir espionner et de ne pas arrêter
Ces
les
programmes,
méthodes,
oui.
voilà, ces programmes. Et l'autre chose qui est aussi symbolique, je trouve, de ce point de vue-là, c'est que le Brésil a avancé le fait qu'il voulait à tout prix maintenant créer des câbles de transmission Internet. Je ne connais pas les mots techniques
Oui, les
enfin,
câbles
précis.
sous-marins,
Voilà, les câbles
oui.
sous-marins. Il voulait en faire passer un essentiel entre toute l'Amérique du Sud et l'Europe parce qu'il ne voulait plus que ça transite par l'Amérique du Nord. Donc sur le plan
Tout à fait.
symbolique, ça montre qu'il y a une défiance énorme par rapport à tout ça et que les USA sont en train de s'isoler petit à petit.
Oui, en tout cas, c'est sûr qu'il y a des conséquences très importantes dans toute l'industrie et ça va certainement pas s'arrêter à cette proposition de réforme d'Obama. Bon, mettons de côté un petit peu la NSA pour nous intéresser à la neutralité du net et le scénario de cauchemar de la neutralité du net qu'on a vécu il y a une petite dizaine de jours de ça aux États-Unis. Et dans ces domaines, certains d'entre vous se diront peut-être, oh, mais ces États-Unis, ça ne nous concerne pas parce que c'est administratif. Dans ces domaines, ce qui se produit aux États-Unis a des répercussions un petit peu partout dans le monde, puisque une énorme partie des services fonctionnent aux États-Unis et naissent aux États-Unis. Alors, très rapidement, le principe de la neutralité du net, pour ceux qui l'auraient oublié, c'est le principe qui veut que toutes les données qui transitent par Internet soient traitées de manière égale par les fournisseurs d'accès. C'est-à-dire que un fournisseur d'accès ne peut pas dire tel service va avoir une priorité sur mon accès. Je ne peux pas proposer à mes clients d'avoir, par exemple, YouTube prioritisé par rapport au reste du trafic, ou au contraire, YouTube bridé par rapport au reste du trafic. Toutes les données doivent être traitées de manière égale. Je prends l'exemple de YouTube parce que c'est un point d'accroche chez plusieurs fournisseurs d'accès ces derniers temps. On pense à Free en particulier, qui, selon certains, briderait YouTube. C'est pas tout à fait le cas. En fait, ils ont une infrastructure qui devient engorgée aux heures de grande utilisation et parfois même aux heures de moins grande utilisation. Mais on a aussi des exemples de l'autre côté, chez les opérateurs mobiles, chez SFR par exemple, qui vient d'annoncer que YouTube ne comptait plus dans certains forfaits, ne comptait plus dans la limite la limite que vous avez de consommation fair use, c'est-à-dire les 2 gigas ou 3 gigas, YouTube ne sera plus compté dedans. Donc ça, on a les deux exemples d'un côté et de l'autre de maltraitance de la neutralité du net. Alors, il faut savoir que sur les réseaux mobiles, on a toujours eu cette sorte de position un petit peu particulière. On sait que Deezer, par exemple, ne compte pas sur les limites chez Orange depuis un certain temps. Aux États-Unis, on a d'autres exemples un petit peu similaires. Mais ce qui s'est passé, qui était très important là aux États-Unis, c'est que la FCC, qui est l'organisme qui s'occupe de la régulation des services de téléphonie et de télécommunication, a perdu un appel chez la Cour suprême aux États-Unis, qui dit que la FCC n'est pas apte à imposer la neutralité du net aux fournisseurs d'accès. Alors, suite à ça, je répète, hein, la FCC, qui est censée régler et gérer les télécommunications aux États-Unis, n'est pas apte à imposer la neutralité du net. Beaucoup de gens ont dit, ah ben, ça veut dire que la neutralité du net est morte et qu'on va avoir tout type de services et de contrats un petit peu bizarres qui vont amener à des situations dangereuses pour l'innovation. Par exemple, si des fournisseurs d'accès américains disent, ah ben alors YouTube, et c'est des contrats qui sont en train d'être discutés, hein, qui sont en train d'être mis en place, et on a des velléités dans d'autres pays aussi, un fournisseur d'accès dira à YouTube, à Google, bon, vous nous envoyez énormément de trafic, donc on va vous demander de payer pour ce trafic et on assurera que le trafic sera bien acheminé. jusqu'aux utilisateurs. Évidemment, YouTube, en théorie, c'est Google, donc ils pourraient payer. Et ils pourraient s'assurer que leur service, vous n'avez pas de ralentissement, vous pouvez regarder en HD, etc. Ils pourraient ensuite aller voir Netflix ou d'autres fournisseurs d'accès, d'autres fournisseurs de services. Et ça leur permettrait à ces fournisseurs d'accès d'engranger un petit peu plus d'argent, voire beaucoup plus d'argent. Le problème intervient quand une autre société innovante crée un compétiteur qui nécessite beaucoup de bande passante. Imaginons que quelqu'un d'autre crée un concurrent à YouTube. Eh ben, évidemment, ils vont se lancer. Ils ne vont pas avoir suffisamment d'argent pour payer les fournisseurs de services, les fournisseurs d'accès. Et ça va les empêcher de se développer. Peut-être que ça pourrait tuer dans l'œuf des solutions innovantes différentes qui ne pourraient pas se permettre de payer pour que, entre guillemets, les données soient acheminées à bon port. Donc, ce genre de service, ce genre de contrat entre les fournisseurs d'accès et les fournisseurs de services sont maintenant possibles parce que la FCC, qui est censée régler tout ça, n'a pas le droit d'imposer la neutralité du net. Pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé, c'était une situation assez malheureuse et qu'on aurait pu voir venir parce que la FCC avait classifié les fournisseurs d'accès comme en anglais, hein, ça s'appelle des utilities ou des information services, des services d'information, et non pas comme des common carriers ou des Telecommunication Services, c'est-à-dire des services d'infrastructure au même titre que les services de téléphone. C'est-à-dire qu'en fonction de la manière dont ils les auraient classés, soit c'est des services publics, et à ce moment, ils ont le droit de leur imposer certaines choses, soit c'est des services d'information, et à ce moment, ils n'ont pas le droit de leur imposer ces choses-là. Et en 2002, ils ont dû prendre une décision qui était de les classer dans l'une ou l'autre de ces classes. Et ils ont choisi la mauvaise. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient, à l'époque déjà, un combat difficile à mener contre les fournisseurs d'accès, et ils n'ont pas voulu mener ce combat parce que à cette époque-là, ça n'avait pas la même importance. Donc, il serait possible pour la FCC de reclassifier les fournisseurs d'accès en tant que services d'infrastructure, on va dire, qui sont là pour le bien commun de la société, mais ça demanderait une volonté politique énorme, et on n'est pas sûr qu'elle soit là, surtout avec les lobbies importants que sont ces fournisseurs d'accès. Donc, pour nous, il semblerait évident que c'est une infrastructure qu'il est nécessaire de classifier comme quelque chose qu'on peut réguler. Mais malheureusement, à cause d'une décision que cet organisme de régulation a pris en 2002, eh bien, ils ne peuvent pas réguler les choses comme ils le voudraient. Encore une fois, j'interromps mon long monologue pour vous demander ce que vous pensez de cette décision. Est-ce que vous pensez, comme certains, que c'est la fin du monde ? Est-ce que vous pensez que c'est peut-être on exagère un petit peu les conséquences de cette décision ? Je vous laisse la parole.
je veux bien que tu y ailles pour.
Alors, j'y vais. Je suis partagé, en fait. Donc, ça va peut-être surprendre Patrick.
Oui, je suis très surpris. Vas-y, explique. J'aurais pensé que tu aurais été un combattant croisé de la neutralité du net.
Mais... Sur le principe, oui. En même temps, regardons. Je vais me faire l'avocat du diable, tu vois.
Vas-y, lance-toi.
Regardons quelques éléments chiffrés. Quand tu regardes le trafic engendré par des services comme YouTube ou peut-être dans une moindre mesure Netflix, là c'est plus aux États-Unis, aux heures de pointe, le trafic en fait est monopolisé par des communications et le réseau YouTube ou ce genre de service style Netflix. C'est vraiment vraiment flagrant quoi. En quelques années en plus, ça ne cesse d'augmenter. Je crois que c'était 50%, 30% du trafic total aux heures de pointe il y a quelques années. Maintenant c'est 50%. Donc c'est vraiment énorme. Donc que les fournisseurs d'accès et leur mot à dire là-dedans, ça me semble pas totalement illégitime, tu vois. Maintenant, et en plus, ces infrastructures étant monopolisées par des services comme YouTube et Netflix, ben, les plus petits acteurs là-dedans, c'est peut-être un petit peu plus compliqué pour eux de sortir la tête de l'eau. Enfin bon, donc je suis embêté parce que ce que j'aimerais pas, en revanche, j'aimerais vraiment pas. C'est que, et comme ça se fait actuellement en effet sur la téléphonie, et notamment t'as cité Orange avec Deezer, alors que Orange d'ailleurs offrait un abonnement Deezer il y a quelques années, si on achetait, si on s'abonnait chez eux. Ce que j'aimerais pas, c'est que on me fabrique une espèce d'abonnement à la carte avec des options en veux-tu en voilà. C'est-à-dire si je veux YouTube, je paye ça, si je veux service de téléchargement X ou Y, je dois payer ça.
C'est la grande terreur, oui, de la mort de la neutralité du net. Mais les arrangements dont je parlais juste avant sont encore plus vicieux parce que ils vont dans le dos des utilisateurs et des abonnés et vont faire payer directement à YouTube le supplément pour que leurs données arrivent aux abonnés. C'est ça.
Donc c'est l'illusion de la gratuité, quoi, en fait. Et en effet, il y a le problème du coût à l'entrée pour les nouveaux arrivants éventuels avec des services innovants qui pourraient, comme tu le disais, être tués dans l'œuf parce que ce coût à l'entrée, comme on dit, est beaucoup trop important pour une société qui démarrerait.
C'est de cette manière, ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est sur cette égalité des données qu'a été construit l'Internet tel qu'on connaît aujourd'hui.
On est d'accord, on est entièrement d'accord. Oui. Bon, t'as vu qu'autour de ma longue tergiversation, je t'ai pas vraiment donné mon avis au final.
oui, j'ai bien réalisé, oui, c'était bien joué, t'as dansé autour du truc. Moi, j'aurais quelques petits trucs à ajouter ensuite dans le camp de l'avocat du diable, encore une fois, mais avant, on va laisser Guillaume s'exprimer aussi.
C'est très difficile, je trouve, déjà de parvenir à faire comprendre ce qu'est la neutralité du net à des consommateurs. Parce que lorsque on leur annonce qu'ils vont profiter de quelque chose gratuitement, et que le reste n'est pas payant, mais qu'il y a un service en particulier qui, lui, sera... je pense favorisé, à YouTube, oui. À SFR avec YouTube... on en a parlé cette semaine. Les vidéos YouTube qui deviennent illimitées en 4G. En fait, du point de vue du consommateur, il va se dire c'est tout bénef pour moi, puisque je ne paye pas plus, mais en revanche, j'ai un bonus, c'est que je peux consommer du YouTube.
Ça paraît être une bonne chose pour le consommateur.
Voilà, et en plus, SFR communique là-dessus en disant qu'il s'agit d'un extra pour les clients. Alors qu'en réalité, ça favorise un acteur au détriment de tous les autres, et en particulier, c'est mauvais pour Dailymotion, qui est un concurrent direct, et en plus Dailymotion, qui appartient au concurrent Orange. Oui. Donc on voit tout de suite qu'il y a derrière ça toute une stratégie derrière, et du coup, on est obligé de se dire que dans l'absolu, c'est mauvais, puisque de toute façon, c'est bien beau de dire qu'on privilégie un partenaire, mais en réalité, on est en train d'enlever...
Défavoriser un autre.
Voilà, d'enlever de l'efficacité pour l'autre. Mmh. Donc, quand on veut faire passer ce message-là aux consommateurs, c'est extrêmement compliqué, et du coup, ils ont un boulevard devant eux, parce que les gens qui sont plutôt en train de réfléchir un petit peu plus longuement, n'arrivent pas à se faire entendre, et puis... Les opérateurs, eux, ont le beau rôle en annonçant qu'ils font du gratuit sur certaines choses. Sauf que, effectivement, c'est ce que disait Lionel, c'est passer un temps, quand tout ce marketing sera usé et encore usé, dans 5 ans, peut-être qu'on va commencer à inverser le processus et à nous dire, maintenant, si vous voulez avoir accès à tel truc, faudra rajouter tant, tel autre service faudra rajouter tant, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on aura ouvert la porte... parce qu'on aura eu l'impression au départ que c'était bon pour le consommateur, et puis ça va se retourner contre le consommateur, parce que d'un seul coup, on va, au lieu de lui proposer des choses gratuites, on va lui proposer des trucs payants en plus.
Mais c'est exactement pour ça, à mon sens, qu'il est important qu'il y ait une entité qui puisse légiférer, peut-être pas légiférer, mais en tout cas réguler ce type d'infrastructure de la même manière que on a des autorités qui gèrent. D'ailleurs, la FCC aux États-Unis gère l'infrastructure téléphonique. Hein, c'est vraiment la raison pour laquelle ils n'ont pas eu le droit d'imposer cette neutralité du net était évidente. Et c'était parce qu'ils ont mal classifié les fournisseurs d'accès il y a 12 ans. Enfin, la chose est complètement claire. Bon, maintenant, évidemment, je suis complètement d'accord avec vous. Pour moi, la neutralité du net est quelque chose d'incroyablement important. On parlait d'YouTube et le fait que YouTube puisse payer un tel ou un tel pour acheminer ses données jusqu'à l'utilisateur final. Il faut savoir que YouTube et tous les autres payent déjà leur bande passante. Tu disais Lionel qu'ils représentent une énorme partie du trafic sur Internet, mais ils payent eux pour la bande passante pour envoyer les données. Donc ils payent déjà la bande passante de la même manière que nous, on paye notre bande passante aussi. Donc à mon sens, le mouvement des fournisseurs d'accès qui veulent faire payer en plus d'une part les utilisateurs et d'autre part les fournisseurs, c'est un moyen d'avoir un petit peu plus d'argent des deux côtés. Et accessoirement, ils sont tous bénéficiaires. Hein. Il n'y en a pas un seul qui perde de l'argent encore. Donc, c'est quelque chose de vraiment, vraiment dangereux, ce dont on parle. D'autant plus encore, avant de rentrer encore une fois dans mon costume de l'avocat du diable, d'autant plus encore que la quantité de données qu'on peut transmettre, la quantité de bandes passantes disponibles ne cesse d'augmenter. Toujours. Ne cesse d'augmenter et elle augmente plus vite que la consommation. Ce qui veut dire que cette idée de la bande passante limitée pour les vidéos qui prennent de plus en plus de données, de plus en plus de place, c'est même pas une illusion, c'est un mensonge. C'est-à-dire que ça n'est pas vrai. On construit de plus en plus de câbles, on construit de plus en plus d'infrastructures et ça grossit plus vite que la vidéo. La raison pour laquelle on n'en a peut-être pas assez dans certains cas, c'est que pendant les 10 dernières années, les fournisseurs d'accès qui ont fait énormément d'argent avec démocratisation du net, au lieu de réinvestir dans l'infrastructure et dans les câbles, ils ont dégagé des bénéfices, ce qui est très bien évidemment pour les actionnaires, mais qui a une vision à très court terme. Donc je n'émets pas de jugement, contrairement à certains qui pourraient en voir un méfait du capitalisme. Je n'émets pas de jugement là-dessus, même si la chose semble assez claire, mais même sans émettre de jugement, il est évident qu'aujourd'hui, la raison pour laquelle on n'a plus, certains disent qu'on n'a pas assez de bande passante, c'est parce qu'il n'y a pas eu les investissements suffisants. Donc, c'est à mon sens une chose assez claire sur les causes et les raisons de ces problèmes. Maintenant, pour en revenir à cette histoire de la FCC, certains disent c'est pas un problème parce que ils peuvent toujours agir quand quelque chose de clairement illégal ou de clairement défavorable au consommateur est mis en place. C'est-à-dire que si ces contrats entre les fournisseurs d'accès et YouTube, par exemple, sont mis en place et YouTube paye pour avoir un accès privilégié, eh bien là, la FCC peut tout à fait aller intervenir et dire non, ça ne va pas, donc vous arrêtez tout de suite, ça suffit. Elle siffle les enfants dans la cour et elle les remet là où ils devraient être. Donc peut-être que c'est un moyen de tempérer un petit peu les cris alarmistes qu'on a entendus ces derniers temps. Oui, c'est un problème pour la neutralité du net, mais non, ça ne veut pas dire que la neutralité du net est morte. La FCC et d'autres organismes dans le monde ont toujours l'autorité pour sauvegarder le consommateur et ils y feront peut-être appel. On peut aussi imaginer qu'à terme, la FCC va essayer de reclassifier les fournisseurs d'accès comme fournisseurs d'infrastructures, comme ils auraient dû le faire en 2002. Ça sera compliqué et on risque d'en reparler parce que ça provoquera un combat assez épique dans le gouvernement américain, on l'imagine.
Et ça paraît très fragile quand même. On dirait des digues qui s'apprêtent à sauter et là, on a peut-être gagné 2-3 ans, mais j'ai la sensation que ça finira par sauter. Je veux dire, la neutralité du web finira par sauter. C'est une espèce de... C'est de fatalité. Derrière, sur le plan marketing, et le commerce, ça pousse tellement qu'à un moment donné, ça ne va pas pouvoir tenir.
Bah écoutez, moi ce que je la seule chose que je peux vous recommander, d'une part, je suis pas certain parce que le net trouve toujours des moyens de réajuster les choses, hein, c'est un petit peu l'enseignement qu'on a eu ces 15 dernières années. Et d'autre part, l'autre chose que je dirais, c'est que si vous êtes vraiment attaché à ce principe qui a fait que l'internet d'aujourd'hui a pu se construire, eh bien je vous recommande d'aller chez un fournisseur d'accès qui est attaché à ces concepts. Je le dis parce que tu en parles, hein, Guillaume, mais moi, je l'ai évoqué 2-3 fois dans l'émission, la politique de Free qui demandait... Et pourtant, j'adore Free, hein, ils ont fait... C'est tout simplement la société qui a fait le plus pour la justesse des prix sur le net et dans la téléphonie mobile en France. Hein. Ils ont fait des choses incroyables. Mais pourtant... La politique qu'ils ont par rapport à YouTube, c'est-à-dire qu'ils voudraient que YouTube paye pour qu'ils mettent à jour leur infrastructure chez Free, ça me paraît inacceptable parce que c'est en contradiction complète avec la neutralité du net. Alors qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai quitté Free et je suis allé chez un autre fournisseur d'accès qui lui respecte la neutralité du net, en l'occurrence c'est OVH. Et voilà, donc le seul moyen de vraiment influencer tout ça, c'est pas de se plaindre, c'est pas d'aller mettre des avatars ridicules sur Twitter, c'est pas mais c'est vrai, hein, c'est pas de faire de pester tout seul devant son ordinateur, c'est ouais, d'agir.
C'est vrai, les quatre grands acteurs principaux, sont menaçants envers la neutralité du web, les quatre principaux.
C'est vrai.
Donc alors et moi il y avait un autre petit truc que j'ai remarqué cette semaine, c'est Google qui a lancé un nouveau service qui s'appelle le service rapport de qualité vidéo. Mm-hmm. Et ce service, il n'est pas encore ouvert en France, mais je crois qu'il fonctionne dans d'autres pays européens, mais il va bientôt ouvrir en France. C'est un service qui explique clairement comment fonctionne l'acheminement d'une vidéo YouTube dans le réseau Internet mondial. Et il se propose de faire un diagnostic de la vitesse à laquelle on reçoit la vidéo YouTube, de manière à se rendre compte si c'est un problème technique dans l'immeuble, si c'est plutôt un problème d'opérateur, si c'est un problème plutôt de serveur dans le pays, etc. Et voilà. Et donc,
c'est clairement leur arme anti-free, quoi, pour la France.
Tout à fait, mais ils essayent d'être à la fois pédagogiques, ils sont didactiques parce qu'ils expliquent bien comment ça fonctionne et qui paye quoi. Et voilà, donc pour retrouver ça, l'URL n'est pas très simple. En revanche,
non, mais je la mettrai dans les notes notes de l'émission.
Ouais. Dans Google, il suffit de taper rapport de qualité vidéo Google et on tombe sur cette page qui récapitule tout ça.
Ouais, très bien. Effectivement, mais c'est un outil qui est important pour montrer. En gros, ça vous dit, bon bah voilà, là ça bloque à tel niveau, et si tel niveau c'est votre fournisseur d'accès, bah vous savez à quoi vous en tenir, quoi.
Ouais, mais bon, juste pour finir là-dessus, on devrait savoir à quoi s'en tenir dès le début. Enfin, c'est ça qui m'énerve énormément, c'est le manque de transparence. Quand j'achète un service, j'aime bien savoir ce que j'achète. Et là où j'en veux. Moi également à Free, on va pas faire la tête de Turc et taper sur Free et taper sur l'ambulance. C'est vrai, quoi, que l'ambulance se porte quand même pas trop mal.
Bon, c'est sans doute le moins pourri de tous, hein, mais bon.
Oui,
oui, encore qu'il y a
le débat est long.
Le débat est long, effectivement. Ouais.
Mais quand j'achète un service, j'aime bien savoir ce que je paye. Donc si j'ai des restrictions d'accès sur YouTube, ben, merci Free de me le dire clairement, quoi, sur mon contrat, et j'achète en tout état de cause.
Ouais, en l'occurrence, c'est pas exactement ça. Ça serait un sujet un petit peu technique à évoquer peut-être un jour.
Oui, certes.
C'est pas qu'il limite YouTube, hein, c'est que, enfin bon, comme je le disais tout à l'heure.
Non, mais les effets sont là,
oui, c'est sûr.
Les effets sont clairement là.
C'est sûr. Bon, passons à notre dernière information essentielle et importante de l'épisode, c'est les lentilles de contact smart de Google. Ça veut dire que non content de développer les Google Glass, les lunettes connectées, maintenant on a les lentilles de contact connectées. Mais c'est de la science-fiction. Ça veut dire qu'on va pouvoir avoir sur les lentilles de contact les informations qui vont s'afficher comme dans Google Glass avec Android connecté directement, c'est ça?
Et ouais, extraordinaire.
Oui, bon, pas exactement. En réalité, c'est un projet qui a fait beaucoup de bruit, évidemment. C'est l'un des projets de Google X, qui est cette sorte de pépinière à projets invraisemblables qui a été annoncé. Il s'agit donc effectivement des lentilles de contact intelligentes qui incluent une antenne et une mini puce et un capteur dans la lentille. Donc, ça veut dire que vraiment dans la lentille, il y a de l'électronique, quoi. C'est quelque chose d'assez invraisemblable. Mais par contre, ça ne va pas vous afficher des images, ça ne va pas être connecté comme ça aussi simplement à Internet. En fait, ce que ça fait, c'est que il y a un capteur qui va calculer la quantité de sucre, de glucose dans les larmes, et de cette manière savoir pouvoir indiquer aux personnes diabétiques s'ils doivent utiliser plus d'insuline, enfin indiquer leur niveau de sucre dans le sang directement en communiquant avec le récepteur qui sera un petit peu plus loin. Donc c'est quelque chose de tout à fait remarquable au niveau technique, mais on n'est pas encore à Google Glass dans la lentille. Hein. C'est pas tout à fait ça. D'ailleurs, Microsoft a dû suivre ça avec attention parce qu'il travaillait sur un projet similaire il y a déjà un an ou deux. Donc, c'est pas non plus quelque chose de totalement inédit. Et accessoirement, beaucoup de gens ont dit aussi que le temps que le niveau de sucre dans le sang se reflète dans les larmes, en fait, il a déjà changé dans le sang. Donc, c'est pas tout à fait idéal. Mais bon. Bon, je vais arrêter de faire le rabat-joie, c'est quand même incroyable. Des antennes et des puces dans une lentille de contact, quoi.
Ouais, c'est incroyable. C'est vrai que c'est incroyable, quand même. Ouais. On approche vraiment à des éléments de science-fiction qu'on touche du doigt. Enfin, faut faire attention, parce que là, il s'agit de l'œil. Mais on arrive quand même à des éléments... absolument extraordinaire. Moi, je suis toujours un peu embêté parce que, en ce qui concerne les innovations de Google, que une société dont je me méfie beaucoup, oui. mais ça force quand même le respect de pouvoir arriver à sortir des éléments techniques aussi impressionnants, quoi. Quand même incroyable.
Je pense que ces innovations-là se font toujours en deux temps. Il y a d'abord le premier temps où on va en avoir une utilité soit médical, soit militaire, soit humanitaire. Donc ça justifie pleinement qu'on fasse de la recherche là-dedans. Et puis à un moment donné, ça va devenir rentable. Donc on va essayer d'en faire quelque chose qui soit utile à monsieur tout le monde, au particulier, pour qu'on puisse en faire un achat pour en faire un achat de masse et puis se faire de l'argent avec. Donc je pense que la première étape est toujours passionnante et très intéressante et indispensable. Il faut parvenir à... Si ça peut permettre à des gens d'avoir une vie plus simple, moins dangereuse, mieux suivi médicalement, ou alors dans l'humanitaire, il y a des applications dans d'autres domaines. Mais je me méfie toujours de la seconde étape qui va consister à en faire un objet ludique ou utile pour la vie quotidienne. Et je ne sais pas où ça peut aller.
C'est vrai que là, on a une technologie qui est intéressante, mais on ne sait pas très bien, parce que oui, le capteur, les larmes qui vont indiquer le niveau de sucre, ok, c'est intéressant, mais où est-ce que ça peut aller, effectivement ? Enfin, on peut imaginer mille choses, mais c'est tellement de la science-fiction... Que, oui, Lionel, tu as déjà des idées peut-être ?
Oui, non, mais tu sais, je regardais la vidéo concept de Microsoft qui était sortie en 2011 à ce propos, avec les informations qui s'affichent directement sur la rétine de ton œil. Donc tu le vois, enfin c'est quand même extraordinaire, quoi. Et tu peux suivre ton chemin, ne pas te perdre, savoir si tu croises dans la rue un peu à la manière des Google Glass, quoi. Ouais. Hein, voilà, exactement. Et savoir que quand t'es dans une foule, tu connais un tel, il te fait partie de ses amis parce que ça se met en surbrillance au-dessus. Ouais.
Mais ça fait un peu partie des vidéos concept futuristes qui me plaisent pas trop parce que c'est tellement futuriste qu'on peut mettre n'importe quoi là-dedans, tu vois. Donc c'est un petit peu en l'an 2000, les policiers voleront avec des ailes. Vous vous souvenez de ces images futuristes du début du siècle avec des vélos volants, tu sais.
Ouais, mais tu vois, enfin, je sais pas, moi, ça me paraît évidemment de la science-fiction aujourd'hui, mais avec la miniaturisation
dont fait preuve, oui.
La gueule, ça me paraît pas non plus complètement impossible et délirant.
D'ailleurs, ils ont des antennes et des circuits imprimés dans la lentille, donc ça sera possible. Voilà. Mais moi, je vois plus des trucs du genre des capteurs qui vont t'indiquer effectivement, je sais pas, à terme, si tu es fatigué, si tu as bien dormi, voilà. si ton cœur bat trop vite, je sais pas. C'est plus le quantified self et ce genre de choses que je vois.
Oui. Patrick, tu avais parlé, je crois, une fois d'une série d'une série anglaise qui s'appelle Black Mirror. Je crois que
oui,
c'est toi.
Oui. Voilà. Je sais plus. Enfin, je sais que Cédric Bonnet en a parlé plusieurs fois. Mais moi aussi, je l'avais vu.
Cette série, enfin, les innovations technologiques me font tout le temps penser à cette série parce que cette série s'approprie des innovations et les détourne pour montrer qu'est-ce que ça pourrait donner de pire.
Oui, c'est un peu dystopique quand même.
C'est un peu dystopique, mais il y a des choses
tout en noir. Oui.
Il y a des choses inquiétantes. Où on se dit que ça pourrait partir loin, effectivement, ça pourrait.
C'est vrai.
Ça pourrait déraper, voilà.
En tout cas, voilà, maintenant vous savez, Google fait des lentilles connectées. C'est quelque chose d'assez incroyable, mais ça arrive. Et puis, ça risque, comme toujours avec Google, d'avoir des utilisations intéressantes, on va dire ça comme ça. Bon, on passe à la partie news et rumeurs et je vous propose de se détendre un petit peu avec une petite section n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu quelques informations tellement ridicules ces dernières deux semaines que j'en ai carrément fait une section complète et on va vous en parler un petit peu rapidement. Vous connaissez le principe des news et rumeurs. Je vais parler je vais donner les différentes news et vous m'arrêtez si vous avez quelque chose à dire. Donc, je commence. Le truc le plus débile, c'est que la semaine dernière, pendant une douzaine d'heures, les deux tiers du trafic internet chinois entier ont été redirigés vers une seule petite maison du Wyoming aux États-Unis. C'est-à-dire que l'ensemble les deux tiers du trafic de toute la Chine étaient envoyés directement vers un seul endroit. Inutile de dire que la société en question n'est pas restée disponible très très longtemps. Et entre parenthèses, c'était sans doute c'était une base pour plein de sociétés, dont certaines qui faisaient des trucs qui plaisaient pas forcément au gouvernement chinois, des trucs de poker, etc. Et donc, il est possible qu'ils aient voulu bloquer l'accès au site hébergé par cette société et qu'en fait, Dieu sait comment, il y a un ingénieur chinois qui a mis l'adresse IP dans un mauvais champ sur le Great Firewall, le grand mur Internet de Chine, la grande muraille Internet. Il l'a mis pas où il fallait et donc tout a été redirigé là-bas. Invraisemblable cette histoire.
Avec accès Facebook et Twitter qui normalement sont filtrés par.
Évidemment. Donc voilà, c'est le genre de truc, on ne sait même pas comment ça peut arriver.
Ouais, c'est
incroyable. Ça a duré 12 heures, mais quand même. Bon, vous avez sans doute entendu parler de cette histoire, de cette étude, et là j'utilise les guillemets auditives, de cette étude qui a prétendu que 80% des utilisateurs de Facebook allaient disparaître d'ici à 2017. C'est une étude. Ah bah bon, je vais laisser Guillaume peut-être en parler parce que là on parle de chiffres.
J'ai lu cette étude. Elle repose sur des bases valables, mais avec des conclusions complètement loufoque, c'est-à-dire qu'en fait ils ont fait une étude sur l'évolution du nombre de membres qu'il y a sur le réseau social Facebook et au final ils en ont conclu que voilà il allait perdre 80% de ses membres. En fait ils se sont appuyés sur quelque chose qui s'appelle Google Trends qui sont les statistiques
d'épidémiologie.
Voilà, alors épidémiologie entre autres, parce qu'ils se sont spécialisés là-dedans, par exemple, pour pouvoir anticiper les épidémies de grippe. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui s'appelle Google Flu Trends qui permet à l'avance, de deux semaines à l'avance, de pouvoir anticiper si une épidémie de grippe va démarrer. Et en fait, Google Trends, dans sa grande généralité, permet de suivre n'importe quelle requête tapée dans le moteur de recherche. Et comme ils ont constaté qu'il y avait la requête Facebook commençait à enregistrer une baisse, ils en ont déduit que cette requête était sur la pente descendante. Et que, bon, après, c'est des histoires de courbes statistiques, hein, mais voilà, ils en ont déduit que d'ici deux ans, d'ici 2 ans, on se retrouverait dans la même situation qu'il y a 3 à 4 ans. Et ce qu'ils ont oublié, je pense qu'ils n'ont pas oublié de le faire, je pense juste qu'ils se sont mal exprimés, ils ont complètement occulté l'accès à Facebook depuis les applications mobiles, puisque Google Trends ne mesure que l'accès au moteur de recherche. Donc c'est les gens qui vont taper Facebook dans le moteur de recherche et qui vont accéder à Facebook en faisant ça. Alors, il y a plein de particuliers qui font ça. Des internautes qui font ça, il y en a plein. Bon, plutôt des personnes un peu des anciennes générations qui passeront tout le temps par Google pour faire des choses, pour accéder à des sites. Mais il faut voir surtout que voilà, l'accès, le trafic par application mobile explose littéralement et qu'on est plutôt sur une pente ascendante. Ouais. Ce qui fait que l'un dans l'autre, il est très peu probable que Facebook enregistre une baisse aussi importante dans les 2 à 3 ans. Ils vont probablement enregistrer une baisse parce qu'elle s'observe sur Google Trends. Donc si elle s'observe sur Google Trends...
C'est qu'il y a quelque chose derrière, oui.
Voilà, alors à savoir si tous ceux qui ne vont plus sur Facebook et qui utilisaient la requête sur Google Trends maintenant vont depuis l'application mobile, je pense que c'est pas aussi simple que ça.
Mais... Non, c'est sûr, c'est sûr. Pardon.
Voilà, mais le chiffre de 80% paraît complètement bizarre, parce que tel qu'il est amené, alors la démonstration est bien faite, mais tel qu'il est amené, on a l'impression qu'ils occultent complètement une partie du problème. Et l'autre chose qui était intéressante et amusante dans cette histoire, c'est que Facebook a répondu.
Oui, tout à fait. Oui.
Facebook a répondu en faisant une étude plus ou moins du même style, où ils ont comparé les universités entre elles, et ils en ont déduit que Princeton
qui était l'université d'où émanait cette étude, d'ailleurs.
Voilà, était l'université américaine, ils comparaient à Stanford et à je ne sais plus les autres, et ils considéraient que Princeton était la moins bien placée en termes d'évolution. Donc,
ouais.
Voilà, je te laisse finir.
Ils auraient perdu en faisant les mêmes études et en regardant les mêmes courbes. Ils ont conclu que Princeton aurait perdu tous ses étudiants d'ici 2021. Donc voilà, c'était quand même bon. Et puis franchement, tu parles de l'accès à la mobilité en mobilité, ce qui est certainement important, évidemment, mais il n'y a pas que ça. Enfin, franchement, au-delà de ça, clairement, on a un certain désamour pour Facebook de la jeunesse. C'est évident, il y a beaucoup de personnes plus jeunes qui se dirigent plutôt vers des services comme Snapchat ou WhatsApp ou même Instagram, qui, entre parenthèses, a été racheté par Facebook. Donc, bien joué de ce côté-là. Pourquoi ? Parce que les parents y sont. Et est-ce que ça veut dire que les enfants ne vont jamais aller sur Facebook ? Peut-être qu'ils y iront une fois qu'ils seront un petit peu plus vieux. Maintenant, Facebook, c'est un truc de vieux, c'est un peu chiant. Tout le monde déteste Facebook, c'est sûr, mais il n'y a pas d'alternative. Je veux dire, même Snapchat, etc., c'est pas des vraies alternatives à Facebook, c'est juste que les jeunes le préfèrent pour le moment. Beaucoup de gens ont donné l'exemple de... J'ai un trou... terrible. Avant Facebook, il y avait MySpace. Merci.
MySpace,
donc,
oui.
Donner l'exemple de MySpace, et les gens disent « Ah mais oui, mais regardez, MySpace, ils ont été bouffés par Facebook. » Ben oui, mais avant que MySpace ne disparaisse, Facebook est apparu. Alors, pour que quelque chose vienne remplacer complètement Facebook d'ici 2015, il a intérêt à avoir apparu il y a quand même quelque temps déjà, et il n'y en a pas. Alors ça ne veut pas dire que ça n'arrivera jamais. Peut-être que demain, il y aura un site qui va commencer à monter, qui va proposer les mêmes fonctionnalités de Facebook d'une manière qui plaît plus aux utilisateurs, parce que, encore une fois, il y a énormément de gens qui détestent utiliser Facebook, mais d'ici à ce que 80% des gens, parce qu'aujourd'hui c'est le grand public, hein, c'est les mamies, les grands-pères, les parents, les oncles, les tantes, c'est le grand public qui utilise Facebook. C'est les gens qui sont encore sur Yahoo Mail ou sur Caramail, quoi. Donc d'ici à ce qu'ils quittent Facebook, à mon avis, on a encore le temps de voir venir, quoi. Mais, que mais, ça comme... baisse, c'est possible, mais 2017, ils se porteront encore très bien.
tout à fait. Mais comme tu disais, les jeunes se détournent de Facebook, mais les études, qui sont très timides pour le moment, montrent qu'ils se détournent même carrément des réseaux sociaux. Ils ont tendance à préférer retourner sur le bon vieux chat façon MSN, ou le chat Skype ou quelque chose dans ce genre-là, plutôt que dans un endroit où on met des choses personnelles à la portée de tous.
Tout à fait,
Parce que, voilà, à cause de la présence des parents qui peuvent suivre de près tout ce qui se passe.
Bon, enchaînons cette étude dont certains d'entre vous m'ont parlé sur Twitter, en me demandant ce que j'en pensais. Ben voilà, ce que j'en pense, c'est n'importe quoi. Donc voilà, mon avis est donné. BlackBerry a gagné 10% au cours de la bourse. A gagné 34% il y a quelques jours à la bourse. Parce que on avait entendu que le Pentagone avait fait une commande énorme de téléphones BlackBerry, et on a eu quelques jours après le Pentagone qui a répondu en disant: nous n'avons absolument pas placé de commande de nouveaux téléphones BlackBerry, dans un communiqué de presse qui était assassin. La commande parlait de 80 000 BlackBerry. En l'occurrence, c'est venu d'un rapport qui mentionnait 100 000 appareils qui étaient déjà en place, dont 80 000 BlackBerry. Donc, pendant quelques jours, on a cru à un renouveau de BlackBerry. Enfin, certains ont cru à un renouveau de BlackBerry. En fait, pas du tout. La raison même pour laquelle cette commande du Pentagone a été contredite par le Pentagone. Envie de rire ou de pleurer, je suis pas sûr.
De pleurer quand même, parce que c'était une belle société.
C'est vrai. Enfin, le gouvernement ukrainien aurait intimidé les manifestants par SMS. Vous savez que les choses se passent pas forcément très bien en Ukraine en ce moment. Il y a des manifestations monstres et un gouvernement un petit peu répressif et oppressif. On a entendu une histoire assez... Là, c'est le n'importe quoi, mais le n'importe quoi un petit peu glaçant. Des gens qui auraient reçu des SMS disant « Vous êtes désormais fichés comme fauteurs de troubles », comme ça, sans rien, on savait pas de qui ça venait, visiblement pour intimider les manifestants. En fait, on sait toujours pas d'où ça vient, mais il semblerait que ça a été fait par piratage d'une antenne spécifique, et même les personnes qui n'avaient rien à voir avec les manifestations, qui étaient là, qui étaient dans la zone en question, ont reçu ces SMS. Donc, on n'est pas sûr exactement de ce que c'est et d'où ça vient, et ça n'est pas, en tout cas, il semblerait que ça ne soit pas tout à fait un mouvement, enfin des SMS envoyés par le gouvernement lui-même.
D'autant que la première fois que j'ai lu cette news, la traduction n'était pas tout à fait celle-là. C'était « Cher abonné, vous êtes enregistré comme participant à un trouble massif à l'ordre public ». Ça avait une dimension un peu cynique, et en même temps, ça donnait l'impression que c'était l'opérateur qui l'avait envoyé, puisqu'il y avait « Cher abonné » au départ.
Oui, c'est vrai, c'est ce qu'on a entendu au début, en tout cas, effectivement. Tu as raison. Bon, en tout cas, on aura peut-être plus d'informations sur le sujet. Je ne suis pas certain que ça arrange tellement les affaires, de toute façon, des manifestants en Ukraine, parce qu'ils ne sont pas hyper bien barrés, quoi qu'il arrive. On revient à des histoires un petit peu plus sérieuses, avec une invitation à commenter notre camarade Lionel a disparu de l'appel, j'espère qu'il va revenir bientôt. Une invitation du Parlement européen à commenter et à donner votre avis sur la loi du copyright en Europe. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. C'est une consultation publique qui est ouverte à absolument n'importe qui. Et je vous encourage très fortement à aller y jeter un coup d'œil. Je mettrai le lien dans les notes de l'émission. C'est ouvert à peu près n'importe qui. Et il y a un site qui vous propose de rédiger pour vous, en vous posant différentes questions et en vous guidant, de rédiger la lettre que vous pouvez envoyer au Parlement européen. Donc le site en question, c'est fixcopyright.eu. Donc c'est facile, il est facile de s'en souvenir, fixcopyright.eu, et il vous donne des indications sur tout ça là-bas. Encore une fois, je mettrai les notes dans les liens dans les notes de l'émission, le lien pardon dans les notes de l'émission, et vous pouvez ça demande un tout petit peu de travail, mais si c'est un sujet qui vous intéresse et qui est important pour vous, je vous encourage au moins à aller y jeter un coup d'œil. C'est vraiment un de ces sujets importants. Et là, on a l'occasion de faire quelque chose. On nous pose la question directement. Donc, allez au moins y jeter un coup d'œil.
Oui, ça me donne l'impression d'être une forme de lobbying positif. C'est-à-dire qu'on va... Puis en plus, c'est lié aux députés européens avec les élections qui approchent. Ça donne la sensation qu'on veut sensibiliser les Européens aux enjeux de l'élection pour se dire, bah finalement, si je peux me donner mon avis auprès de mon député, bah ça va peut-être me donner plus envie d'aller voter pour lui.
Oui. Oui, peut-être, oui, effectivement. Bon, là, je suis pas certain que ça s'adresse aux députés directement, encore qu'on peut toujours envoyer une lettre aux députés.
Ah, d'accord.
Ça ne fait jamais de mal, hein. Mais par contre, là, c'est spécifiquement à cette commission.
Ah, d'accord, donc, oui, c'est une commission européenne. Je pensais que c'était le Parlement européen, c'est pour ça.
C'est une commission spécifique, hein, si je ne m'abuse.
D'accord.
Résultat record pour Microsoft. On a toujours tendance à voir les choses en noir pour Microsoft, avec Windows 8 qui marche pas très bien, etc. En fait, ils ont toujours plus de 25% de profit. Donc, ça va. 24 pays où le Windows Phone fait mieux que l'iPhone. On est vraiment dans une dynamique positive pour Windows Phone. Bon, c'est pas forcément les pays les plus intéressants au niveau du marché, hein. C'est des pays comme le Chili, la Colombie, la République tchèque. Donc c'est parfois des pays un petit peu moins riches que les nôtres. Mais il n'empêche, il y a une vraie dynamique à ce niveau-là. On trouve la Finlande, hein, aussi, évidemment. La Grèce, l'Italie. Il n'y a pas que des pays complètement en voie de développement.
Il y a l'Italie, par exemple. Hein,
c'est ce que je disais. Ouais.
Oui, pardon.
Donc, c'est une vraie dynamique intéressante pour Windows Phone. Donc, importante à signaler aussi.
Oui.
Oui. Non, t'as pas l'air convaincu.
Oui. Non, je pensais au chiffre précédent. Tu disais 25% de profit net, je veux dire. Ouais, il y a toujours une ambiguïté. On dit d'une entreprise qu'elle fonctionne mal lorsque elle a une croissance qui est faible. Il y a toujours une ambiguïté à savoir quelle est la différence entre profit et croissance, entre profit et marge. Et du coup, c'est pas parce qu'une entreprise fait beaucoup de profit qu'elle est rentable. Enfin, elle est rentable, je veux dire.
Oui,
mais
qu'elle est sur la bonne pente ascendante, quoi.
Voilà, voilà.
C'est vrai, c'est vrai. Bon, mais en tout cas, les choses ne vont pas horriblement mal non plus, on va dire ça comme ça. Le ministère de la Défense a renouvelé son contrat avec Microsoft. Bon, on pourrait en parler très très longtemps. Les partisans du libre ne sont pas très contents. Et effectivement, il n'y a peut-être pas eu d'appel d'offres fait dignement. Bon, là, effectivement, on pourrait en parler longtemps. Le roaming européen gratuit Bouygues Télécom a frappé assez fort sur ce sujet. Et Orange est en train de préparer quelque chose aussi. Il faut savoir que si les fournisseurs d'accès, les services de téléphonie mobile sont en train d'intégrer le roaming gratuit en Europe, y compris pour la donnée, c'est aussi parce qu'il y a des directives européennes qui vont les forcer dans quelques années, 2 ans à peu près, je crois, à harmoniser tout ça. Donc, c'est pas non plus qu'ils y vont volontairement sans aucune contrainte. Hein. Mais bon, c'est une bonne chose.
Pardon, vas-y.
Et non, j'allais passer à la Corée déjà, qui développe la 5G.
Non, j'allais dire, il y avait une petite différence quand même, c'est que Orange se prépare à proposer ça dans les pays où Orange est déjà présent, ce qui limite quand même pas mal les choses, tandis que Bouygues Telecom propose quelque chose à l'Europe tout entière, Islande et Suisse incluses par exemple, et c'est vrai que c'est un très gros coup, je trouve, parce que le roaming c'est vraiment prohibitif. C'est par exemple quand je vais à Londres, je me demande toujours si je vais activer Google Maps, est-ce que je vais pas avoir une mauvaise surprise au bout de 5 jours. Donc voilà, le roaming.
Non, c'est sûr. Non, c'est très important, mais la chose que je voulais signaler c'était que c'est un effet de la concurrence, évidemment, qui a été initié par Free, entre parenthèses, hein, il faut le signaler aussi. Mais je voulais également signaler que la commission, enfin, l'Europe a décidé qu'il fallait faire les choses comme ça de toute façon d'ici un ou deux ans. Donc on est sur une roadmap qui va nous amener à plus de roaming du tout nulle part, quoi qu'il arrive.
Ils le font quand même contraint un peu et presque forcé, voilà, je suis d'accord.
La 5G en Corée du Sud qui a débloqué 1,1 milliard d'euros pour développer la 5G. Sachez que on est en train de travailler aussi à la 5G en Europe aussi. Donc on a aussi des mouvements qui ont commencé dans ce domaine-là. Donc on est en retard, mais peut-être pas autant qu'on pourrait le craindre. Deux iPhones qui pourraient arriver pour le prochain modèle, iPhone 6, avec des écrans plus grands. Des modèles 4,7 pouces et 5,5 pouces, c'est ce qu'on a entendu récemment. Et moi, je suis a priori pas très client des plus grands téléphones, mais bon, là, je compte bien acheter un iPhone 6 parce que je suis toujours partisan d'iOS, donc peut-être que je serai contraint et forcé de prendre un téléphone plus grand et de voir si ça me convient finalement ou pas, après avoir dit que ça ne me convenait pas tellement.
Mais oui, je t'entends dire ça à chaque fois, parce que là, il y a la rumeur, c'est pour du 5,5, c'est 5 pouces et demi.
Oui. 4,7 ou 5,5, donc
voilà,
4,7,
et ça va encore. 5,5, ça commencerait à devenir intéressant. Moi, personnellement, j'adore les grands écrans et je peux dire que je connais énormément d'utilisateurs d'iPhone qui pestent contre la taille de leur écran et qui aimeraient vraiment avoir quelque chose de la taille d'un Samsung Galaxy Note.
Ah, mais c'est clairement, enfin, il y a clairement un marché pour ça. C'est évident, il y a plein de gens qui aiment beaucoup. Mais en plus, il y a aussi énormément de gens qui disent qu'ils n'aimaient pas, a priori, enfin, qu'ils pensaient ne pas aimer les grands modèles de téléphone de ce type-là, les fameuses phablettes, hein, qui est un mot que je déteste, mais beaucoup de gens disaient qu'ils pensaient ne pas aimer les grands modèles et qui finalement, quand ils en ont eu un, ont adoré. Donc, peut-être que je serai un converti aussi, hein. Moi, pour le moment, j'ai l'impression que c'est pas mon truc, mais on verra. Lionel est revenu, donc tout va bien. Nous sommes au complet. enfin, on peut peut-être conclure là-dessus, à moins que vous n'ayez d'autres infos que vous voulez évoquer, hein, mais moi, ça sera la mienne. Le pape François a dit, en gros, hein, je paraphrase peut-être un petit peu, le pape François a dit que Internet était un don de Dieu. Et là, j'avoue que je suis tout à fait d'accord. Et je ne plaisante même pas tant que ça. C'est-à-dire que Internet est un bienfait pour l'humanité, à mon sens. Alors oui, on peut parler des vidéos de chat sur YouTube et des images débiles qu'on partage sur Facebook, mais je pense que le public de cette émission est plutôt réceptif à ce genre d'argument. Il y a aussi énormément de bonnes choses qui arrivent grâce à Internet. Ça favorise la communication, ça facilite la communication et la création tout court, et la désintermédiation qui donne le pouvoir à des gens qui ne l'avaient pas. Et donc, oui, je suis d'accord, Internet est un bienfait pour l'humanité, et je suis heureux que le pape François le dise en ces termes, un don de Dieu, pourquoi pas.
Amen.
Mais bien, François, je trouve. Non. Amen. Très bien. Merci Lionel. Bon, d'autres petites news qu'on veut évoquer, peut-être Johnny Hallyday trahi par Facebook, des choses comme ça. Thor
par Instagram,
pourrait...
oui.
c'était peut-être Instagram, oui, effectivement.
Oui, c'était Instagram.
Oui.
J'ai pas grand-chose à en dire, mais.
D'accord, ok. Bon. Thor qui pourrait devenir une technologie standard du web, ça pourrait être intéressant. Thor, c'est ce moyen d'anonymiser complètement vos communications en faisant passer chacune de ces communications par plusieurs serveurs connectés à ce réseau Tor anonymement. Ils sont en train de travailler avec certains organismes du web pour en faire un standard, ça serait pas mal. Quoi d'autre? Vous voyez des choses intéressantes.
Surtout que par rapport à Tor, la NSA, on dit un peu par rapport à ce que vous disiez en début d'émission, mais Prism avait beaucoup beaucoup de mal à introduire le réseau Tor et
oui, tout à fait.
À sniffer le réseau Tor. Très très compliqué.
Ouais, effectivement. Le désavantage de Tor, c'est que c'est extrêmement lent, donc comptez pas regarder oui. YouTube. Exactement. Mais par contre, pour des dissidents ou pour simplement l'envoi de messages un petit peu discrets, ça peut être très utile. On a aussi le créateur de BitTorrent qui est en train de développer un nouveau logiciel qui s'appelle Dissident X, qui cache des messages dans des fichiers images existants, par exemple, mais vraiment qui sont complètement cachés, donc ça peut permettre à des gens, encore une fois, de communiquer secrètement sans se faire espionner. Bram Cohen est quand même très attaché, c'est le fameux créateur, il est très attaché à ce genre de principe. Quoi d'autre ? Facebook qui devient une régie publicitaire pour applications.
Ah.
Ça, c'est pas si surprenant que ça, mais ouais, encore une fois, ouais, c'est logique. Mais voilà, si vous n'aimez pas Facebook, encore une raison de plus d'arrêter de l'utiliser, on dira. La gendarmerie qui utilise Twitter, c'est pas mal, non ? On dit que le gouvernement et surtout une organisation comme la gendarmerie n'est pas hyper au fait des nouvelles technologies. Bah maintenant, la gendarmerie est sur Twitter.
Bah, une autre news bien franco-française, que le Pôle emploi ne réunit pas plus de 30% des offres du web et veut ouais. s'ouvrir aux offres des sites privés pour avoir testé un petit peu le Pôle emploi de reprise. je dois dire que si c'est 30%, c'est déjà beaucoup mieux qu'il y a à peine 2 ou 3 ans.
Ouais.
Ça va même beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire qu'ils sont, quand ils ont enfin une offre d'emploi, ils nous la transmettent un mois après qu'elle soit effectivement mise sur le marché, ce qui fait que c'est systématiquement trop tard. Donc il faut toujours être en amont du Pôle emploi. Pour ça ouais. que, c'est pas pour faire de la pub gratos, mais tant qu'à faire, faudrait que tout le monde. Enfin, je pense qu'il n'y a rien qui égalise Remix Job.
Ah oui,
pour le moment. Ah bah là pour le coup
tu travailles pas chez Remix Job hein.
Non.
D'accord, OK. Oui, c'est sûr. Enfin, Remix Job qui est une initiative notamment de Corben et d'autres camarades du web, c'est un petit peu spécialisé sur les métiers du web, mais effectivement, si vous recherchez dans ce genre de domaine, il faut aller sur des plateformes spécialisées hein, c'est évident. Mais tu vois, on critique Pôle emploi avec justesse hein, sur le fait que leurs offres, enfin leurs services ne réunissent pas l'ensemble des offres qu'on peut trouver sur Internet. Mais c'est à l'occasion d'une ouverture justement de Pôle emploi qu'on en parle parce qu'ils veulent agréger des plateformes privées sur leur site de manière à devenir une sorte de destination unique qui permettrait d'avoir les bénéfices de tous ces acteurs privés. Donc c'est une très bonne initiative quoi. Effectivement.
Évidemment, je trouve ça bien, mais j'ai toujours du mal à être admiratif d'un truc qui arrive avec 10 ans de retard.
Oui, moi je suis peut-être toujours un petit peu émerveillé au contraire et je me dis quand c'est bien, il faut encourager et être content, mais t'as raison, ils auraient dû le faire il y a peut-être un certain temps. Bah écoutez, je pense que ça va terminer cet épisode parce qu'on a quand même parlé de beaucoup de choses. On a passé un bon petit moment à discuter, c'était bien sympathique. Donc je pense qu'on va arriver à la conclusion de l'épisode. Et vous le savez évidemment, avant de nous quitter, je vais proposer à nos invités de nous dire où on peut les retrouver. Alors je vais commencer par le maître incontesté de la statistique sur Internet, à savoir le grand Guillaume Main.
Alors, sur Twitter, on peut me retrouver sur Statosphère. Alors, je voudrais juste parler de deux petites choses très rapidement.
Vas-y, prends tout ton temps.
La première, c'est un site qui s'appelle frenchpoll.fr, Paul PO2L comme sondage en anglais, que j'ai créé il y a déjà plusieurs mois, qui est un agrégateur de sondages, c'est totalement gratuit, hein. C'est un agrégateur de sondages, c'est-à-dire qu'on peut retrouver toute l'actualité des sondages, c'est une autre façon de suivre l'actualité au jour le jour, et voilà, je propose ça, c'est classé par jour, on retrouve à chaque fois tous les sondages qui sont sortis ce jour-là, et comme ça suit automatiquement l'actualité politique, l'actualité sociale du pays, etc. Ça peut être très intéressant. Voilà, à voir si ça intéresse des gens.
Je rappelle le nom, c'est frenchpoll.fr, pas Paul, voilà. P-A-U-L, mais P-O-L-L.
Voilà, exactement.
D'accord.
Et l'autre petite chose que je voulais dire, c'était que, alors tout le monde connaît, alors tous les blogueurs connaissent probablement WordPress, qui est une plateforme de blog pour blogueur, voilà. Moi, je voudrais mettre un petit peu le focus sur un autre CMS, hein, c'est CMS, c'est Content Management System, qui s'appelle .clear, qui est français, celui-là, qui est intégralement gratuit. Et voilà, je m'occupe d'une partie du community management de ce petit CMS. Et comme il est gratuit, il est open, il est tout ce qui est possible d'être open. Hein, il y a absolument rien, il y a aucune c'est une association
propriétaire. Ouais.
Voilà, je voudrais mettre un peu le focus dessus et vous inviter à faire sa connaissance en allant sur la page Facebook qui s'appelle .clear officiel, tout attaché en français.
Mais .clear, c'est même pas si petit que ça. Hein. Ça commence à être un petit peu utilisé et assez connu. Hein.
Tout à fait, ils ont fêté leurs 10 ans l'année dernière. Le problème, c'est que l'équipe de développeurs a perdu un petit peu. Patience et un peu de passion l'an dernier parce qu'il y avait de moins en moins de gens pour les aider. Ils ont annoncé que .clear, ça allait être un projet fini durant l'été 2013. Du coup, tout le monde s'est détourné de .clear alors qu'en réalité, d'un seul coup, toute une communauté s'est réveillée pour dire, bah non, nous, on veut pas que ça meure. Donc, d'un seul coup, ça a repris énormément d'essor et aujourd'hui, ça va très bien. Seulement, bah, il y a plein de gens qui pensent que ça n'existe plus. Or, ils ont fêté leurs 10 ans en fin 2013, et ça vaut le coup d'y jeter un œil, parce que ils n'ont pas grand-chose à envier à WordPress, si ce n'est effectivement une communauté qui est quand même beaucoup plus petite. Mais d'accord. Sur le plan technique, il n'y a pas grand-chose à envier à WordPress.
Bah écoutez, .clear.org ou alors .clear officiel sur Facebook. Merci, voilà. Guillaume. Et toi, Lionel, est-ce que tu officies toujours sur Internet ?
Alors très peu, très très peu. Alors, j'ai It is Lionel est toujours là sur Twitter, mais vous voyez que même si je lis Twitter, je ne tweete plus.
D'accord.
Voilà, pour des raisons diverses et variées. Et puis, est-ce que je peux parler d'autre chose que de la techno pour faire
mais
une
Mais tu parles de ce que tu veux, Lionel. Ouais.
Alors,
tu vois ce que je veux dire, quoi. Ce que tu veux, façon de parler.
Ne vous inquiétez pas. Donc, non, simplement pour dire que, alors c'est pas de la techno, hein, mais c'est juste pour faire une petite parenthèse et souffler un petit peu. Je suis allé voir un spectacle à Paris qui s'appelle Les Mugler's Follies. Et si vous avez une amie et que vous voulez lui offrir une jolie soirée, eh ben je vous conseille. Alors c'est à Paris, donc c'est pour les Parisiens évidemment. Je vous conseille de l'inviter à ce spectacle absolument extraordinaire et qui revisite avec joie les grands classiques du musical. Voilà.
Comme d'accord.
Quoi, bah, écoute, rien à voir avec la
vraiment rien. Sinon, c'est presque un.
On n'a qu'à enregistrer un positron.
Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est presque positron, là, pour le coup. Bon, très bien. Donc, c'est Mugler's Follies, le spectacle à Paris. Très bien. Ouais, bah, merci, Lionel. Bon.
Et voilà.
Bon, et pour ma part, c'est Patrick Béja, vous connaissez, hein, c'est NotPatrick sur Twitter. Généralement, je vous parle de d'iTunes, je vous encourage à aller laisser des commentaires et des avis sur la page du Rendez-vous Tech d'iTunes. Bon, je vous encourage à le faire toujours. Juste un petit teasing, il y aura peut-être un autre moyen d'aider le Rendez-vous Tech d'ici pas si longtemps que ça. Je vais pas en dire beaucoup plus, mais je suis en train de travailler sur quelque chose qui est assez important. Bon, j'en dis pas plus. Teasing, vous verrez. Dans pas si longtemps.
Horrible, on a envie de savoir.
Mais non, mais c'est assez important pour moi, quoi. Donc. Vous verrez. En attendant, vous pouvez aller sur frenchspin.com pour avoir toutes les notes de l'émission. On mettra, comme on en a parlé, les notes, les liens vers l'invitation à commenter le copyright et l'outil qui vous sert à mesurer la qualité de réception de YouTube dans les notes de l'émission. Vous pouvez aussi commenter les informations qu'on a données dans l'émission, nous dire ce que vous pensez, par exemple, de la NSA ou de la neutralité du net. Comme vous le savez, on essaye toujours de donner deux avis ou trois avis divergents sur tous ces sujets. On est toujours très intéressé par vos avis aussi. Moi, j'y vais, je commente, je réponds, on interagit comme ça et c'est toujours intéressant de voir ce que vous en pensez. Donc, je vous invite vraiment à le faire. Et évidemment, si vous voulez écouter d'autres podcasts dans lesquels j'officie, il y a Upload d'un côté et celui dont on parlait, Positron de l'autre. Positron qui vous donne des recommandations de trucs vraiment cool à faire. On a des petites émissions missions courtes où en 20 minutes ou 25 minutes, on vous donne trois trucs à faire. Et pour les prochains épisodes qui arrivent bientôt, là, j'avais comme invité mon frère et mon ami, mon frère qui est le compositeur des musiques de tous mes podcasts, et mon ami Gabriel Katz, qui est l'auteur du Puits des Mémoires, dont j'avais parlé il y a un petit peu plus d'un an ici, qui était un roman d'Heroic Fantasy absolument formidable, et qui d'ailleurs vient de sortir, je fais encore une parenthèse, qui vient de sortir La Maîtresse de Guerre, qui est un roman dans le même univers que Le Puits des Mémoires. Après que la trilogie se soit terminée, il a décalé un petit peu son point de vue. Je l'ai lu, il est très très bien aussi, et je dis pas ça parce que c'est un pote à moi. Franchement, allez y jeter un coup d'œil, La Maîtresse de Guerre de Gabriel Katz, ça vaut franchement le coup. Et la trilogie était, au moment où je regardais, 5 euros pièce sur les plateformes de téléchargement. Donc 5 euros pour un volume de la trilogie, ça vaut franchement le coup. Bref, bon, j'arrête de faire tout mon téléachat. Vous pouvez donc nous retrouver sur frenchwin.com, ça je l'ai déjà dit. Et quoi qu'il arrive, nous reviendrons avec une petite surprise, comme je le disais, dans une quinzaine de jours pour un nouvel épisode. Je vous remercie tous d'avoir écouté. Je remercie mes invités d'avoir parlé. Et je vous dis à dans 15 jours. Ciao à tous.
À bientôt.
Ciao.